le 5 mars, à 9h50 du soir, après une grave maladie, est décédé le président du Conseil des ministres de l'URSS, secrétaire du Comité central du Parti communiste de l'Union soviétique, Joseph Vissarionovitch Staline.
Прощай, наш учитель и вождь, наш дорогой друг, родной товарищ Сталин.
Ces images se passent de commentaires.
Salut, Daniel Mermet, là-bas si j'y suis. 5 mars 1953, la mort de l'homme que nous aimons le plus.
Говорит Москва.
Москва parle.
От Центрального комитета.
Le comité central du Parti communiste de l'Union soviétique. Le Conseil des ministres de l'Union soviétique. Le Présidium du Soviet suprême de l'Union soviétique s'adresse à tous les membres du parti, à tous les travailleurs de l'Union soviétique. Chers camarades, chers amis, le Comité central du Parti de l'Union soviétique, le Conseil des ministres de l'Union soviétique, le Présidium du Soviet suprême de l'Union soviétique, à la douleur d'annoncer au parti et à tous les travailleurs de l'Union soviétique que le président du Conseil des ministres de l'Union soviétique, le secrétaire du Comité central du Parti communiste de l'Union soviétique, Joseph Staline, est décédé le 5 mars à 21h50 des suites d'une longue maladie. Joseph Staline, le compagnon d'armes et le génial successeur de l'œuvre de Lénine, le maître et le leader du Parti communiste et du peuple soviétique, nous a quittés. Son cœur a cessé de battre.
Что без Сталина невозможно жить.
J'avais l'impression, mais pas que moi, tout le monde avait l'impression qu'on ne pouvait pas vivre sans Staline. Comment peut-on vivre sans lui?
Pour nous, c'était pas une idole tout à fait, mais ça pouvait ressembler parce que c'était quelque chose qu'on espérait un jour voir dans notre pays.
Cette aura. L'aura de l'URSS était une religion forte, une croyance.
Vital, qu'est-ce que c'est pour vous le stalinisme ?
Eh ben, ça a été un merveilleux passage pour un futur monde qui a pas réussi, quoi.
Мы думали, что Сталин умер. Мы все погибли.
Si Staline est mort, on va tous mourir.
Vous avez cru ça?
Là.
Oui.
Staline était là dans ce jeu.
Parce que Staline, c'était notre vie.
Qui по всей стране в день похоронил его, так сказать.
Des alarmes dans toutes les villes.
Ну, все стояли где-то, как.
Les glas qui sonnaient.
Я нигде не стоял, я был дома.
Moi, je suis allé nulle part, je restais à la maison.
Le peuple de France proclame hautement sa confiance dans l'Union soviétique, principale force de paix dans le monde et garante d'un avenir radieux pour toute l'humanité.
Говорит Москва.
Я был уже в 53-м году, когда Сталин умер.
Quand, en 53, quand Staline est mort.
Я был инженером уже, окончил
инженер, институт. J'étais diplômé de l'Institut.
И был в командировке в Ростове.
Et je suis parti en mission à Ростов.
И вот жил в гостинице.
Et j'étais à l'hôtel.
И двое, один мужчина, один женщина, выбрались с пятого этажа, когда узнали, что умер Сталин.
Et deux personnes, un homme et une femme, se sont jetés du cinquième étage de l'hôtel quand ils ont appris la mort de Staline.
Это было и в Грузии, в России.
Et ça a eu lieu et en Géorgie, et en Russie, partout. Ça a été un deuil national, un deuil total, une blessure, une offense.
Я не знаю. Господи, почему Господь его убрал?
И пourquoi Dieu l'a emporté?
Мне кажется, если бы было ему 150 лет,
s'il avait 150
и все бы, наверное, молились ему в ноги, чтобы только ты был жив, чтобы ты руководил.
À 150 ans, on serait là encore à prier à ses pieds en espérant qu'il soit éternel, qu'il vive encore.
On a l'impression que vous parlez d'un Dieu vivant.
Конечно.
Bien sûr, bien sûr.
Для нас это, наверное, второй.
Pour nous, c'est un deuxième Dieu, sans doute.
Наверное.
Oui, c'était un Dieu. Для народа он был второй Бог.
C'était comme un deuxième Dieu.
À Paris, un chômeur s'est approché de son portrait orné de guirlandes de roses et y a déposé un petit bouquet de violettes. Avec l'argent de mon pain, je lui ai acheté des fleurs. Les machines de Turin ont stoppé leurs courses. Les ouvriers agricoles de Sicile se sont figés immobiles. Les dockers de Gênes ont cessé le travail. Eux aussi suivaient le cercueil de Staline. Eux aussi le pleuraient. À travers les ruelles du vieux Pékin, les jeunes gens, les vieillards, les femmes avec leurs enfants se hâtaient vers la place où la Chine pleurait son ami. Dans les pampas de l'Argentine, le berger arrêtait un passant lui disant le mot « malheur » et ensemble ils pleuraient « Staline ». Parmi les ruines de Corée, les mères apprenant toute la mesure du malheur des hommes baissaient les yeux et pleuraient « Staline ». Varsovie ressuscitée de ses cendres a drapé de deuil ses échafaudages. À New York, les honnêtes gens, entourés de policiers, de mouchards et de tueurs, disaient tristement « L'ami de la paix est mort. En ces jours de deuil, nous voyons Staline dans toute sa grandeur. Nous le voyons parcourir les routes de la terre et dominer notre dure époque. Il parcourt les montagnes de sa Géorgie natale, les champs de bataille entre le Don et la Volga, les larges avenues de Moscou en construction. » Il marche au loin dans les rues populaires de Shanghai, par les collines de la France, dans les forêts du Brésil, sur les places de Rome, dans les villages de l'Inde. Il marche sur la crête du siècle. Voilà des lignes qu'on pouvait lire il y a exactement 50 ans dans le quotidien L'Humanité qui titrait ces trois mots. Staline est mort. C'était la mort du dieu Staline qui veut dire acier. Un événement considérable et qui devient de moins en moins compréhensible avec le temps qui passe. Voilà pourquoi avec Thierry Scharf en France, avec Aude Merlin en Russie, à travers les archives de là-bas si j'y suis, à travers tout un tas d'archives, on va aujourd'hui évoquer ce jour-là, le jour où Staline mourut, aussi bien du côté soviétique, du côté russe, que de notre côté en France,
qui était, comment a-t-on à l'époque perçu, reçu cette mort, la mort du coryphée de la science, du bolchevique de granit, du père des peuples, du génie du peuple russe, du guide génial du prolétariat universel. Ce jour-là, il y eut une minute de silence à l'Assemblée nationale. Ce jour-là, Picasso donna aux lettres françaises un fameux portrait qui fut interdit car Staline y semblait trop juvénile. Partout, on disait le jour de sa mort, il n'y a pas d'homme plus vivant. Staline, on l'entendra dans la bouche de Paul-Éluard, était cet homme que nous aimons le plus, disait-on. C'était bel et bien le mécanicien de la locomotive de l'histoire. Alors, mécanicien de la locomotive de l'histoire, ouais, et ça, c'était dans la presse du parti, un peu partout dans le monde, du parti communiste, à travers le monde. Mais enfin, il y avait des hommes pour qui c'était pas ça du tout. Exemple, Oleg Volkov, que nous avions rencontré dans sa datcha, à côté de Moscou en 1991. À l'époque, Oleg Volkov était décédé maintenant, il était né en 1900, et donc il était né à Saint-Pétersbourg, avant que Saint-Pétersbourg ne devienne Leningrad, et il était souriant à l'idée qu'il allait finir ses jours à nouveau à Saint-Pétersbourg. Il y avait un petit détail dans la vie d'Oleg Volkov, c'était 27 années qu'il avait passé au goulag. Et avec Zoé Varier, on lui avait demandé s'il se souvenait, il parle de les voir, un très beau français, celui sans doute de Saint-Pétersbourg au début du siècle, il se souvenait lui aussi de ce jour-là.
Je me souviens justement du moment quand j'étais comme ouvrier manœuvre dans une ferme d'État, là-bas, dans les profondeurs de la Sibérie, quand on a donné la première fois dans les journaux, on a annoncé que la santé de Staline, les docteurs l'ont trouvée menaçante, oui, et nous avions peur même de nous dépêcher d'éteindre cet éclat d'espoir et de joie qui devait briller dans nos yeux. Quoi? Le monstre a expiré? Vraiment, c'est ce que nous pensions chacun, et nous baissions les yeux pour ne pas nous trahir. Son âme a été emportée par le mauvais esprit, sans doute par le diable. J'imagine que jusqu'à présent, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais regagné l'habitude d'être sincères. Ça, c'est quelque chose qu'il faut encore passer des générations, probablement, pour recouvrir cette capacité de juger sans être guidé par la peur.
Говорит Москва.
Marchons au pas, camarades, marchons au feu hardiment, par-delà ces fusillades, la liberté nous attend. Place aux vrais fils de la terre, place aux enfants du labeur, affranchissons tous nos frères, sera le cri des vainqueurs. Longtemps rivé à la chaîne, la faim nous a tourmentés, assez de nos peines, nous saurons nous racheter. Car les puissants de ce monde n'œuvraient que par nos outils. Dans la révolte qui gronde, nous chargerons les fusils. Brisons enfin l'insolence des nobles et des richards. En terre, plantons la lance de notre rouge étendard.
C'était Hardy Camarade, le titre.
Vital, qu'est-ce que c'est pour vous, le stalinisme?
Eh ben, ça a été un merveilleux passage pour un futur monde qui a pas réussi, quoi. Qui a échoué, quoi. Ça, pour moi, c'était, je voyais tous ces jeunes qui sortaient avec des fleurs dans les bras et tout, au cinéma, quoi, ou tout ça.
En URSS.
Oui, en URSS. Alors, puis cette joie qu'ils respiraient, et puis leur volonté de réussir et tout, là. Et
vous y avez été là-bas?
Non. J'y vais au mois de juin.
Il est temps.
Oui, il est temps.
Eh oui, il est temps pour Vital Marquez, 82 ans, d'aller enfin découvrir le paradis des prolétaires. Et le jour viendra plus proche que la bourgeoisie française ne le voudrait, où les idées de Staline triompheront dans notre pays et où brillera de tout son éclat le soleil du communisme. Ainsi, on écrivait dans l'Humanité, en ces jours qui ont suivi la mort de Staline, ou par un matin glacé de Moscou, ont été célébrés devant un peuple figé au garde à vous. Le corps du généralissime a été déposé au mausolée de la Place Rouge, où il repose auprès de celui de Lénine. Un grand, grand jour, évidemment, pour les soviétiques, mais pour le monde entier. Pas si facile que vous le croyez de rencontrer des anciens, des gens qui ont vécu en France, des gens qui ont vécu ce jour-là et qui sont prêts à le raconter. Après tout, c'était il y a 50 ans, c'est un moment d'histoire. Non, la déconfiture, la déconvenue, le cocufiage, une certaine honte peut-être, peu importe, fait qu'on n'a pas trop envie d'en parler. Sauf des gens comme Dominique de Santi, que vous connaissez, qui était journaliste et écrivain, auteur de grandes biographies comme celle de Drieu La Rochelle, de Flora Tristan, etc. D'essais historiques surtout, et qui, elle, Dominique de Santi, se souvient très bien de ce jour-là.
On attendait la mort de Staline. Il était très malade. Je me lève le matin, j'achète l'Uma, elle est bordée de noir. Je marchais vers le kiosque et il y avait parmi les journaux un journal bordé de noir. Alors je me suis dit, Staline est mort. Ça m'a quand même fait un coup, hein. Je me suis dit, bon, ben, il y a une époque qui n'a jamais révolu. Et qu'est-ce qui va arriver? Les gens pleuraient, je me rappelle pas avoir pleuré, mais c'est vrai qu'on se posait la question, qu'est-ce que ça va devenir? Ça, je me suis vraiment posé la question.
En 1953, pour moi, Staline, c'était le communisme allait disparaître. Vous voyez, j'ai eu peur. Il dit la marche vers le communisme intégral, le vrai communisme, maintenant que les Russes sont en train de redresser leur pays et tout, s'il meurt, c'est trop tôt. Et c'est trop tôt parce que il y a encore beaucoup à faire pour aller vers le communisme, quoi. Et puis c'était lui le contrepoids des États-Unis déjà à cette époque. Hein. La guerre froide existait, quoi, déjà. Eh bien, mais pour moi, la mort de Staline, c'était un arrêt du communisme, du communisme, alors qu'en réalité, il n'y a jamais eu de communisme nulle part dans le monde. Quand je l'ai appris, moi, j'étais déconcentré, je savais pas, je disais, c'est pas possible, et il y a que lui qui peut aller au communisme. Vous voyez, pour moi, il y avait que lui qui pouvait arriver et qui pouvait faire face à tous les partis de droite de France ou d'ailleurs. Il nous aidait tout le temps par le travail qu'il faisait en Union soviétique, par tout ce qu'il avait fait. On a vu des films formidables, même sur lui, un film sur lui qui était formidable. On voyait toute l'évolution du peuple soviétique. Alors les chants et tout ça, tout le monde était heureux. C'était merveilleux. Tout le monde avait du travail. C'est l'image que j'avais, quoi.
Travailleurs de l'usine. Le Parti communiste est le parti de ceux qui ont les vrais moyens de vivre par leur travail. Les mains des hommes sauront construire leur bonheur si elles s'unissent.
À l'entreprise Aubry, chantier Bonne Nouvelle, nous avons les yeux fixés vers l'Union soviétique, qui a à sa tête l'homme du socialisme, l'homme de la paix, qui consacre toute sa vie prodigieuse à la grande cause de la classe ouvrière et conduit les peuples vers la joie et le bonheur. Toute notre sympathie, toute notre reconnaissance, tous nos espoirs vont au peuple de l'Union soviétique et à leur guide éclairé.
Allez, bravo !
La voix de Paul Éluard dans ce document, un film mis en scène par Jean Renoir qui s'intitulait « L'homme que nous aimons le plus » qui était un hommage dithyrambique à Joseph Staline. Grâce à lui, nous vivons sans connaître l'automne, l'horizon de Staline est toujours renaissant. Écrivait le même Paul Éluard. On connaît aussi les aventures des intellectuels dont Louis Aragon et d'autres qui ont été des staliniens fervents. Toutes ces histoires sont racontées, sont connues, mais enfin c'est quand même, puisque c'est l'anniversaire de cette la mort de Joseph Staline, c'est pas mal quand même parfois d'y revenir, et de revenir notamment sur cet aveuglement extraordinaire des intellectuels. C'est vrai, comme le dit Edgar Morin, que ce stalinisme, ce communisme stalinien était une religion de salut terrestre, c'est-à-dire, et Paul Éluard le disait, il existe un autre monde, mais il est dans celui-ci, c'était le bonus en plus, c'était la promesse ici-bas, c'était plus ce que les religions promettaient depuis si longtemps, un paradis pour après, non, c'était ici, on allait le faire ici. C'était pas une très grande nouveauté dans la pensée, dans les projets, dans les utopies, mais c'était, voilà, ce qui peut expliquer cet aveuglement, c'était une foi. Il était une foi.
On a annoncé sa mort le 5 mars. Pendant ce temps-là, le pays était mort.
Не только мне, всем казалось, ну, абсолютному большинству, что без Сталина невозможно жить.
J'avais l'impression, mais pas que moi, tout le monde avait l'impression qu'on ne pouvait pas vivre sans Staline. Comment peut-on vivre sans lui?
И победа, и все, что мы
имеем, все это с ним связано. Tout ça est lié à lui.
Как же дальше? Конечно, такое было действительно искренняя боязнь, что это случится.
C'était vraiment une peur.
И люди даже боялись сказать об этом, вслух высказаться.
Et les gens avaient même peur de le dire tout.
Ну, а когда объявили, конечно, все были в жутком состоянии.
Quand sa mort a été annoncée, tout le monde était dans un état terrible.
Люди собирались на улице.
Les gens se rassemblaient dans la rue.
Шли, плакали на улице.
Ils pleuraient dans la rue.
Я стояла, например, значит, портрет был. Я училась на третьем курсе педучилища.
Moi, j'étais étudiante en troisième année à l'Институт Педагогии.
На третий год, это мне еще 17 лет было.
J'avais 17 ans.
И, значит, портрет стоял огромный, все это украшено.
Il y avait un énorme portrait
de Staline. И мы по очереди менялись в почетном карауле, вот все это.
Et on gardait, on devait monter la garde de ce portrait les unes après les autres à l'Институт.
Так, я настолько плохо себя чувствовала, что просто боялись.
Tellement mal.
Как же? Меня он и спас.
J'avais peur. C'est lui qui m'a sauvé.
И вырастил, и вдруг.
C'est lui qui m'a élevé. Et après, comment je vais faire sans lui?
Страшно.
C'était terrible.
C'était terrible. А вот в Москве только позднее узнали, что оказывается там когда-то на Ходынке, когда было вот до революции, когда вот Николай на престол стал, когда там погибло много людей.
Et c'est seulement après qu'on a appris, comme pour la mort de Nicolas II, qu'à la mort de Staline, il y avait des gens qui étaient morts, écrasés dans la foule. C'est seulement récemment qu'on en parle.
Тогда только москвичи знали.
À l'époque, seuls les московитes le savaient. Voilà, 53. Année 53.
Thank you.
наш учитель и вождь, наш дорогой друг, родной товарищ Сталин.
По всей стране в день похорон его, так сказать,
все.
Ну, все стояли где-то,
как.
Я нигде не стоял, я был
дома.
А это я помню, потому что в 53-м году, в марте месяце, мне уже было сколько? 17 лет. Очень долго плакала.
И ma grand-mère a pleuré longtemps.
И я помню, что она сказала.
Je me souviens qu'elle a dit.
Ну, наконец-то Бог сподобил. Так.
Dieu a enfin accompli son devoir.
Ça voulait dire quoi? Que on le regrettait pas du tout.
Ну, мы, например, нет.
Nous,
мы
non,
никуда не ходили, нигде не плакали, никуда не рвались.
On n'a pas pleuré, on s'est pas rué sur des foules.
Бабушку успокаивал я. Ну зачем ты, что? Она говорит, ну ничего, я тебе расскажу.
Et je dis, mais pourquoi tu pleures? Je te raconterai plus tard.
Она мне. Она умерла в 59-м году,
elle
она меня ждала, ждала, когда я
elle
пришел,
attendu,
она мне в 59-м году,
elle m'a dit, juste avant de mourir,
мне
в 58-м,
она просила, так сказать, читать ей Евангелие,
elle m'a demandé de lui lire l'Évangile,
а она мне рассказала, как было дело.
Et elle m'avait raconté,
вот, потому что, когда я родился,
quand je suis né,
держит тебя на руках, сторож говорит, дед,
il te prenait, dans les bras, le grand-père avait pris le drapeau rouge,
ну, а ты,
et
говорит,
le père avait dit,
момент,
j'ai eu un fils qui vient
d'être. Ты, говорит, в этот момент обмочился, его обмочил, значит.
Et à ce moment, tu t'es mis à uriner, et tu lui as pissé dessus, et tout le monde s'est réjoui.
Et votre père a été fusillé par Staline.
Ну, при Сталине, конечно.
В 37-м
году, 27 ноября.
Le 27 novembre.
В саратовской тюрьме номер один.
Dans la prison de Saratov numéro 1.
Места захоронения, конечно, нет.
Il n'y a pas de tombe, il n'y a pas de lieu de, d'inhumation.
Потому что выбрасывали, где там овраги были,
parce qu'on a jeté son corps dans un ravin.
Заваливали,
et puis après on a recouvert les terres.
Et vous avez, ça c'est absolument extraordinaire, une carte de réduction de transport.
C'est une carte de réprimé, c'est-à-dire c'est une attestation sur la réhabilitation des victimes de répression politique. La personne qui la possède a le droit à certains avantages et certaines réductions depuis l'adoption de la loi du 18 octobre 91.
Voilà, c'est une carte de réprimé politique. Il y a environ 500 000 de ces cartes. 500 000 cartes de réprimé politique.
Le peuple de France proclame hautement sa confiance dans l'Union soviétique, principale force de paix dans le monde et garante d'un avenir radieux pour toute l'humanité.
Ainsi parlait Maurice Thorez, ainsi parle Édouard Poliakov, que nous avons rencontré à Volgograd et qui, dont le père a été l'une des victimes, des innombrables victimes des années du stalinisme. 4 millions de soviétiques condamnés pour crimes d'État, 786 000, 98 exécutions signées de la main de Staline entre 1930 et 1950, 56, 20e congrès, Khrouchtchev ouvre la déstalinisation, il sera la déstalinisation, mais il faudra attendre 1976 pour que le Parti communiste français condamne le stalinisme de façon irrévocable. 1976. Alors, un aveuglement, bien sûr, mais en 1934, alors que on savait très bien ce qui se passait, on pouvait très bien savoir ce qui se passait, des témoignages arrivaient, sans parler même de celui d'André Gide, mais beaucoup de d'intellectuels, d'observateurs, et de voyageurs simplement disaient ce qui se passait. Alors que on est en pleine décolonisation, c'est-à-dire ces famines organisées, provoquées notamment en Ukraine par Staline en 1934, eh bien Wells, oui, le génial Wells, l'auteur du meilleur des mondes, rencontre qui donc rencontre Staline. Et quelles sont les impressions de Wells? Je rappelle l'auteur du meilleur des mondes. Eh bien, il dit « Jamais je n'ai rencontré d'homme plus sincère, plus juste, plus honnête, le contraire de ce jaloux fanatique monopolisant le pouvoir qu'on prétend être Joseph Staline. Il ne fut pas le seul dans cet aveuglement. Nombreux furent les voyageurs étrangers, dont des parlementaires français, à se tromper totalement sur ce qu'était ce paradis des prolétaires et sur la personnalité de Joseph Staline. C'est l'histoire de l'aveuglement, c'est l'histoire du religieux qui nous piège, qui nous a piégé dans notre histoire humaine et qui nous piège sans doute aujourd'hui sans que nous sachions que nous sommes piégés. Car s'il y a eu des aveuglements tout à fait sincères, il y en a eu d'autres qui furent des volontés, des calculs, des volontés de dissimuler des crimes pour des raisons qu'on supposait nobles et bonnes, c'est-à-dire que la fin justifie les moyens. Il y a 50 ans, mourait Joseph Staline.
On s'est réunis tous les camarades. Là, à ce moment-là, j'étais à la porte de Saint-Ouen, dans le 17e.
Vous aviez quel âge ?
J'avais 26 ans. Et nous nous sommes réunis, voir les dispositions à prendre, voir comment on allait comprendre cette perte. Et on décide à cette époque-là, la direction de les communistes de Paris, enfin le comité central, de faire comme une levée de corps. Et les camarades sont nommés pour venir monter la garde devant le cercueil qui représente Staline. On fait une collecte déjà pour pouvoir payer tous les frais. Et puis, on se rend tous au 44, c'était le lieu du comité central à l'époque. Et il y avait les drapeaux soviétiques en berne, il y avait le drapeau français, il y avait le drapeau rouge, naturellement, notre drapeau. Des délégations partent d'ailleurs à Moscou immédiatement.
Et alors vous, Germaine, vous êtes désignée pour monter la garde.
On monte la garde une heure. C'était vraiment quelque chose de formidable pour nous. C'était quand même un honneur d'aller faire la garde auprès du cercueil.
Il était comment ce cercueil, vous vous rappelez ?
Oui, c'est un très beau cercueil en chêne, et il a été drapé avec des fleurs, c'est les fleurs surtout qu'il y avait.
Venez, Madame Thémard, ils sont finis mes cahiers.
Bien travaillé.
Je suis bien contente, j'ai pu récolter 200 signatures. Sur la dernière page du cahier, je vais coller ma lettre.
Bonne idée.
Tenez, je vais vous la lire. Je lutterai toujours plus fort pour la paix, pour que mes trois petits-enfants vivent heureux et qu'ils connaissent plus de bonheur que leur papa et leur maman. Je suis convaincue que mes enfants, mon mari, la paix et vous, camarade Staline, tout cela est une seule et même chose. Non, jamais, jamais, les femmes de France ne donneront leurs maris et leurs enfants pour faire une guerre contre le pays de Staline.
Il y a une manifestation à Paris, une manifestation en salle, hein, pas une manifestation dans la rue. Alors là, on était très nombreux, quoi. La salle était pleine à craquer. Il y avait une émotion telle que c'était incalculable. Et alors, André Marty a fait un discours très très beau, très très bien. Et on pleure. Et on pleure. Hein.
Vous avez pleuré, Vital?
Moi, j'ai pleuré, oui. Oui, j'avoue que pour moi, c'était la fin d'une époque. Et puis je sais pas, on l'appelait, il y en a qui l'appelaient le petit père des peuples. Il était sympa. Pour moi, on le voyait souvent avec un enfant dans les bras, comme ça. Il représentait vraiment un homme simple, modeste, pas qui travaillait pour son pays, qui aimait son pays. Et puis en plus de ça, je savais qu'il était... Il était géorgien et qu'il avait été quand même au départ, et les souffrances qu'il avait eues quand il avait été arrêté sous le joug des tsars, et puis que il était comme mort, et puis qu'il gelé, puis qu'il était, il avait survécu. Hein, et tout ça, Puis je voyais tout le monde, on était atterrés. Oui, c'est ça aussi, atterrés. Qu'est-ce qu'elle allait se passer, hein? Oui, on était perdus. On disait, c'est pas possible que Staline soit mort. On l'a assassiné, il y a eu un truc ou quelque chose. Mais on pouvait pas croire. Puis c'était ce type, j'en entendais à la radio pendant la guerre, quand les Allemands étaient à 40 kilomètres de Moscou, et que là, il a dit, je suis à Moscou, je reste à Moscou, et les Allemands ne prendront jamais Moscou. C'est quand même quelque chose d'un type qui dit ça, et que ça se réalise. Vous voyez?
Советские армии союзных держав, ведущих освободительную войну в Европе, разгромили германские войска.
Au nom du gouvernement de l'Union soviétique, je m'adresse à vous, commandants et soldats de l'armée rouge, et aux armées de nos alliés. Les armées victorieuses des puissances alliées, menant une guerre de libération en Europe, ont mis les troupes allemandes en déroute et opéré leur jonction sur le territoire de l'Allemagne. Notre tâche et notre devoir sont maintenant d'achever la destruction de l'ennemi, de le forcer à déposer les armes et de se rendre sans condition. L'armée rouge terminera cette tâche et fera jusqu'au bout son devoir envers notre peuple et envers tous les peuples épris de liberté.
Прощай, наш учитель и вождь, наш дорогой друг, родной товарищ Сталин.
Deux jours de deuil national en France suite à l'annonce de la mort de Joseph Staline, des drapeaux en berne, tout ça n'allait pas évidemment sans contestation. 1953, c'était la guerre froide, et s'il y avait cette soumission totale pour un nombre très important de Français, le Parti communiste à l'époque était, je pense, en 53 toujours le premier parti politique en France, eh bien, il y avait évidemment des gens qui s'opposaient, qui étaient au courant, qui avaient pigé, qui n'étaient pas nécessairement pour autant d'épouvantables valets de l'impérialisme, comme on disait à l'époque, pas davantage des alliés objectifs du fascisme ou que sais-je. Il y avait des gens qui avaient très bien compris la situation. Mais il y avait cet aveuglement, on pouvait lire le 12 mars 1953 dans les Lettres françaises, qui était le journal des intellectuels communistes dont Louis Aragon était le directeur. Merci à Staline de ce que les hommes de Vichy, ceux des combines atlantiques, ceux des poules de guerre, ceux qui mettent la France à l'encan et leurs aboyeurs, leurs trotskistes, leurs titistes, leurs Altman, Frossard, Bonny, Robinet, Boutang, puissent appeler 800 000 Français du nom de staliniens. Merci. On voit qu'on n'y allait pas de main morte, mais il faudrait un jour faire une œuvre, enfin un travail particulier sur un certain Maurice Mouillot, le très oublié, on comprend pourquoi, mais Maurice Mouillot a écrit un bouquin qui s'appelle « Thorez, grand écrivain français ». C'est qui rend un hommage dithyrambique à Thorez. Là, on est vraiment dans la l'ubuesque, et où il compare Thorez à Goethe et à Balzac, par la profondeur et aussi la modernité de sa plume. On n'était pas toujours dans cet aveuglement, mais on n'en était pas loin. On voulait croire.
Ma vie, c'était le parti. Le parti, aller chez les gens, aller voir les gens, organiser des réunions, je faisais un petit journal dans le quartier où j'étais avec des copains, et puis je faisais des fêtes tous les 15 jours. D'ailleurs, on m'appelait le maire de l'immeuble, quoi. quand on avait besoin de quelque chose, on allait voir Marquès. Alors, j'organisais des repas dans la rue comme ça. Alors, il y en a un qui amenait des frites, l'autre il aimait. Et bien, puis on chantait et puis tout ça et on dansait. Il y en avait qui avaient des instruments et surtout qu'il y avait une grande place libre devant la maison. C'était des logements pour familles nombreuses. C'était des toilettes à la turque. Bon, moi je demeurais au sixième étage avec mes soies à charbon pour mon petit poêle que j'avais. Et mes meilleurs amis, c'était les grandes familles. Alors, et puis c'était tous venus au parti. Eh ben, j'ai fait des cours de section. J'avais reçu des cours de section, mais j'en avais jamais fait. Eh ben, j'étais comme un instituteur. Puis j'avais une soixantaine de gars. Alors, puis je faisais aussi des fêtes comme ça. Et bon ben.
Vous aimiez ça, c'était votre vie, quoi.
Ah oui. Mais, au détriment d'ailleurs de ma femme qui m'a jamais fait de grief ni rien, qui m'a jamais fait une observation. J'ai regretté, après son décès, là, j'ai regretté d'avoir tant sacrifié à tous les instants, là. On partageait mon week-end, je vendais l'humanité tous les dimanches, hein, à l'autobus, et puis je faisais des tournées aussi, j'allais chez les gens, je leur amenais le journal, je vendais environ 500 journaux, hein, à moi tout seul. L'humanité, c'est notre presse, toujours il mène le combat, que tous les travailleurs se dressent, jamais il ne disparaîtra. L'humanité, oui c'est bien là le titre du seul journal qui défend l'ouvrier, de celui qui, dans les luttes épiques, au capital a toujours résisté. C'est par sa voix qu'on sait que par le monde, il y a des tyrans qui font durer leur dictature immense par la torture et le sang. Par l'esclavage, la torture et le sang. Voilà. Je me rappelle que de ça.
Le serment de tout un peuple qui se souvient et qui crie « Vive Staline !» Gloire et longue vie au chef du prolétariat international, aux dirigeants de la révolution socialiste, aux libérateurs des peuples, aux premiers des combattants de la liberté et de la paix. Et nous, communistes, que l'ennemi de classe et ses agents croient outragés en nous appelant staliniens, nous redisons bien haut, comme il y a 20 ans déjà, notre fierté de ce titre d'honneur et de gloire que nous nous efforçons de mériter. Oui, de tout notre cœur, nous proclamons notre amour ardent pour Staline et nous assurons de notre confiance inébranlable. Vive à jamais! Vive à jamais notre cher et grand Staline! Vive le communisme!
Maurice Thorez, s'adressant aux communistes français. Alors, comment pouvait-on être communiste? Comment pouvait-on devenir communiste? Il faut évidemment se replacer, j'ai évoqué rapidement la guerre froide, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Il faut aussi, puisqu'on parle souvent de religion, de religieux, etc., il faut se souvenir que dans ces années, la religion catholique était toute puissante et pesait beaucoup sur indirectement sur la société, indirectement sur le pouvoir politique, sur la société, sur les esprits, et constituait des repères, des valeurs, et le parti communiste, enfin le communisme copiait très souvent ces mêmes, on l'a vu d'une manière absolument formidable, si vous vous souvenez, le petit monde de Don Camillo, où on avait le curé qui parlait au petit Jésus, vous vous souvenez, et Pépone le maire, ça c'était en Italie, c'est une autre forme peut-être de ce stalinisme, quoique, mais là on voyait bien le parallèle entre cette religion totalement athée qui était C'est encore une fois, je reprends l'expression des guerres morins, cette religion de salut terrestre. Et puis il y avait aussi autre chose qui était, eh bien le fascisme, le Reich qui, dans ces années là que nous évoquons, puisque si on parle de Staline aujourd'hui, nous sommes aussi à Stalingrad, et il y avait le danger fasciste, comme on disait, et qui était bel et bien qui avait existé. Et contre lequel beaucoup de gens s'étaient battus, dont Dominique de Santi, écrivain aujourd'hui, mais qui à l'époque était journaliste et qui était membre du Parti communiste, et qui nous explique comment elle est passée, elle, pour ce qui la concerne, de Stalingrad à Staline.
On s'est engagé de plus en plus parce que Stalingrad. Il faut bien comprendre ça, parce que là, je crois parler au nom d'une partie de ma génération, les 20 ans en 40, et même les 15 ans en 40, et même les 15 ans en 43, on était contre. On ne voyait pas la fin possible. L'Angleterre résistait tant qu'elle pouvait, mais elle pouvait pas venir à notre secours de toute manière. Les Américains n'étaient pas là, et nous n'avions d'autres espoirs que les Russes, que Stalingrad. Et pour nous, Stalingrad était devenu le point de fixation de notre espoir. Et par conséquent, le parti de Stalingrad. Moi, j'ai adhéré au parti de Stalingrad. Et je disais ça. Je disais, j'adhère au parti de Stalingrad. Et cette aura, l'aura de l'URSS, était une religion forte, une croyance. J'aime pas tellement le nom de religion, parce qu'on peut dire, mais quelle théologie, mais quelle, etc. On en avait une. Il y avait Marx et Lénine comme théologie. On avait des écritures sacrées. Mettons ça de côté. La croyance était d'imaginer la possibilité de changer le monde fondamentalement. Nous ne sommes rien, soyons tout. C'est-à-dire les moyens de production aux travailleurs, la fin des inégalités sociales. On était les petits soldats de Stalingrad. Stalingrad, c'était les grands héros, et nous, on faisait ce qu'on pouvait dans notre pays. Mais c'était la même chose, c'était le même but. Et par conséquent, nos camarades, c'était les gens de Stalingrad, donc les soviétiques, dont on ne savait pas grand-chose à l'époque. Moi, je ne savais que les choses négatives, elles étaient complètement gommées, complètement lavées par Stalingrad. Oui, d'accord. Certainement, il y avait eu des injustices, ça c'est pas douteux. Je mettais même pas ça en question. Je ne pensais pas que les gens qui ont été fusillés pour trahison étaient peut-être des innocents. Enfin, je l'avais pensé très fort, mais je ne le mettais pas en question. C'était peut-être des innocents, mais ça, c'était les maladies infantiles. Maintenant, il y a eu Stalingrad, et ça serait autre chose. Et puis en France, ça serait autre chose. Non, mais vous plaisantez. Vous savez d'où est partie la Russie. C'est quand même des gens qui étaient illettrés au sens propre du terme, qui ne mangeaient pas à leur faim, qui c'était des masses obscures. Mais nous, on avait eu 1789, on avait eu 1848, on avait eu la Commune. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Ça ne pouvait pas, et même les dirigeants ne disaient pas le contraire, ça ne pouvait pas se passer chez nous comme ça s'était passé en Russie. Et cependant, en Russie, on construisait des choses merveilleuses.
On construisait des choses merveilleuses, mais qui construisait ces choses merveilleuses? Eh bien, par exemple, Grisha. Monsieur Grisha l'a rencontré en 1993 à Oserlag, en Sibérie. Oserlag, c'était un camp, c'était un goulag. Et Monsieur Grisha a fait partie de ceux qui ont travaillé à la construction du BAM, le Baïkal Amour Magistral. BAM, c'est beau, Baïkal Amour Magistral, mais c'est un train qui voulait concurrencer le Transsibérien, dont certains tronçons existent et fonctionnent d'ailleurs. Et on dit qu'il y a un zec par traverse. Un zec, c'était les prisonniers des goulags. Et Grisha a été pendant 18 ans, prisonnier du goulag. Et pour la première fois de sa vie, ce jour de l'été 1993, il nous avait parlé et raconté sa vie là, dans ses camps, et ce jour-là, le jour où Staline mourut.
Мы копали на Аку, на станции Аку. Тут говорят, что Сталин помер. Один заключенный сказал, туда ему и дорога, заматерился. Его вывели, я думал, его расстреляют. Но почему-то трое суток сидел в изоляторе, и ему больше ничего и не было, никто не судил. Уже тогда было, мы же думали, что-то не то, что-то смягчение будет.
Le jour où Staline est mort, j'étais en train de travailler dans une petite gare sur la voie de chemin de fer du BAM. Il y a quelqu'un qui a dit « Staline est mort ». Et je me rappelle, il y a un des zèques qui a crié « Ben c'est bien que ce chien il crève, c'est bien comme ça qu'il soit mort ». Avant jamais on n'aurait pu dire de pareilles choses. Les gardes se sont jetés sur lui, ont commencé à lui donner des coups, à le battre. On s'est dit « C'est foutu, c'est fini, plus jamais il s'en sortira, il va être fusillé ». Alors il a été 3 jours au cachot. Et puis après, on l'a laissé sortir à nouveau dans le camp. Et là, c'est à ce moment-là qu'on a compris que quelque chose avait changé.
На мосту поезд стал 5 минут, все стояло.
Tout s'est arrêté dans la gare. Les trains se sont arrêtés, tout s'est arrêté.
13 дней и 5. 18 марта я освободился.
J'ai été libéré le 18 mars 53. Je suis resté en camp 13 jours encore après la mort de Staline.
Амнистия была после смерти Сталина. Сделали амнистию большую.
Après la mort de Staline, il y a une grande amnistie.
До 10 лет у кого срок был, до 10 лет освобождали подчистую. А у кого более 10 лет, 50% снимали срок, на 50%.
Tous les gens qui avaient eu 10 ans de camp ont été libérés après la mort de Staline. Et ceux qui avaient eu plus de 10 ans de camp à faire, on a réduit leur peine.
Comment ça s'est passé, l'annonce de votre libération?
Et ils m'ont donné le papier comme quoi j'étais libre et ils m'ont fait signer ce papier comme quoi je ne devais jamais parler, que c'était secret, que je ne devais jamais parler des camps.
Vous avez déjà raconté tout ça?
Comment?
À qui j'aurais pu raconter tout ça?
Voilà, merci à tous, merci à Monsieur Grisha, merci à Dominique de Santi, à Vital Marquez, à Germaine, à Galina, à Monsieur Poliakov, à Alexandra et à son ami Vartang. Merci aux archives de l'INA et du Parti communiste français. Je vous signale une suite de films sur Staline jusqu'au 7 mars sur la chaîne Histoire et sur France 5. Livre de Dominique de Santi, Ce que le siècle m'a dit aux éditions Plomb et La liberté nous aime encore avec son époux Jean Toussaint de Santi aux éditions Odile Jacob. Et peut-être que vous pouvez encore trouver le livre d'Oleg Volkov qu'on a entendu au début de ce reportage, ça s'appelait Les Ténèbres et c'était aux éditions Lattès. Traduction Aude Merlin et Zoé Varier. Reportage et montage Thierry Scharf. Technique aujourd'hui Christian Thibaudot et Stéphane Corridin. Assistante Anne de Giaferi. Le répondeur c'est Christophe Imbert et le numéro c'est le 01 56 40 37 37. Assistant Coy Nguyen et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale.